marché couvert. Allez, allez, allez.
Allez, 3 poussins gratuits, la madame dans le melon, du beau melon, les 4 pour 5 euros.
Europe 1, 11h, 12h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Bienvenue les amis, installez-vous, recettes de saison, bonnes adresses, débat, comme tous les samedis, vous allez être servis. Dans un instant, nous allons déguster une laitue pas comme les autres, et puis au rayon actualité, Perla Servan-Schreiber, cuisinière autodidacte, va nous livrer les 10 commandements de sa cuisine du plaisir au quotidien. Avant cela, laissez-moi vous présenter les bons vivants du jour. Une nouvelle recrue tient ce samedi à notre table, on est ravis de l'accueillir. Elle est journaliste gastronomique au journal du dimanche, elle a les papilles affûtées pour repérer les nouvelles façons de manger. Elle s'appelle Charlotte Langrand.
Bonjour,
bonjour Charlotte et bienvenue.
Merci, ravie d'être là.
On est ravis de vous retrouver à cette table. Vous le connaissez, hein, loin du vocabulaire intimidant des sommeliers, notre Bacchus nous prépare ce samedi un cours de dégustation à la portée de tous. C'est Olivier Pouls. Bonjour Olivier.
Bonjour Laurent, bonjour Charlotte, bienvenue.
Bonjour,
il y aura le verre de bienvenue d'ailleurs.
Exactement, hein. C'est pas un bisoutage nous ici, c'est un verre de bienvenue. Marion Sauveur a les mains dans son journal de la cuisine, elle nous rejoint dans quelques minutes. Et puis Jean-Luc Petit Renault nous donnera une belle adresse pour manger du poisson. Bonne vivante décalée, Chantal Lobby aime manger, vous l'entendrez, elle sera notre invitée sur les coups de midi. Et bien voilà, vous savez tout, à la vôtre les amis. Et puis, actualité oblige aussi, nous rendrons hommage au bon vivant qui était Jacques Chirac.
Avec une petite tête de veau,
tout à l'heure, ou des pommes, vous verrez, vous entendrez. Avant de sortir le cabas pour aller au marché, prenons le temps d'évoquer notre goût de la semaine. Vous le savez, c'est la tradition et le petit rituel dans cette émission. Bon, on va commencer par vous, Charlotte Langrand, vous qui venez de nous retrouver. Votre goût de la semaine, tiens.
Alors, mon goût de la semaine, c'est le goût du comté, ce fromage qu'on croit connaître, qu'on a souvent sur nos tables. Je suis partie dans le Jura
La bonne terre du comté,
voilà,
déjà.
Pour remonter la filière AOP qui garantit une qualité assez exceptionnelle du fromage, mais puis aussi qui, avec son organisation en coopérative, garantit une certaine bonne rémunération.
Oui, ils ont fait un super boulot, ouais, les gens voilà, gagnent leur vie.
Ce qui est suffisamment rare pour qu'on puisse le noter. Et puis en bout de chaîne, vous avez un MOF, un meilleur ouvrier de France, Marc Janin, à Champagnole, qui a sélectionné des affinages absolument délicieux. Donc n'hésitez pas à y passer si vous y êtes. Et puis, si vous êtes dans le coin de Rennes la semaine prochaine, du 3 au 7 octobre, il y a la table du comté. Il y aura des marchés, des dégustations, des dîners. Et puis demain, si vous achetez JDD, je vous en dis plus sur la filière.
Ah, bah voilà, bien vu, tous au comté. Et il est où le comté alors? Vous ne l'avez pas rapporté?
Il est dans mon frigo.
Et là, tout... bah, alors... Olivier Pouls.
Bah là, je suis déçu.
On est déçu.
À la limite de me lever de partir.
Premier rattrapage la prochaine fois.
Olivier Pouls, c'est votre goût de la semaine.
Moi, c'est l'hydromel. Vous savez, cette boisson de nos ancêtres, les Gaulois, qu'on évidemment complètement oublié, puisque après, les Romains sont arrivés avec le raisin et nous ont imposé le vin. Et on a un peu oublié cette boisson assez originale. Et je dois dire, finalement, assez bonne.
C'est bon.
L'hydromel, c'est de l'eau, du miel et le tout fermenté.
C'est la première boisson, en fait.
La première boisson fermentée, alcoolisée dans nos contrées ici. Et c'est chez le chef Alexandre Gauthier, à la Grenouillère, que j'ai eu l'occasion d'en regoûter parce
très
qu'il fait
adresse.
Son hydromel. Et d'ailleurs, quand on va chez lui, bah, il met la pipette dans la grande jarre.
Dans des verres spéciaux aussi.
Dans des verres spéciaux.
Comme des boules de bowling où on les tient avec les doigts, absolument.
Et on goûte ce nectar. Et ça m'a donné l'envie d'en faire une petite chronique. Peut-être dans les semaines qui viennent parler de l'hydromel. Et je pense surtout de l'hydromel en cuisine et les accords qu'on peut faire. Je pense qu'il y a des choses très intéressantes à creuser.
Du comté, de l'hydromel, ça part bien. Hein. Mon goût de la semaine, moi, c'est celui des coques au romarin. Je suis allé dans un restaurant qui s'appelle à mi-chemin, dans le 14e arrondissement
très
de Paris.
Table.
Vous connaissez, C'est Nordine Labia qui est le chef cuisinier. Il est d'origine tunisienne. Sa femme est d'origine bretonne. Et il s'amuse à faire comme ça une cuisine fusion entre notre cuisine traditionnelle et puis la cuisine de son enfance, celle de Tunisie avec des parfums, des épices et ses coques au romarin. C'est un accord génial avec une sauce crémée comme on la ferait en France, justement. C'était un délice avec des échalotes et quelques épices. Voilà, ça s'appelle À mi-chemin et c'est dans le 14e arrondissement de Paris.
Et c'est un chef d'une énorme générosité.
Et d'une gentillesse absolue. Son sourire se retrouve dans sa cuisine.
Dans
vous connaissez aussi, Charlotte?
Dans son couscous au poisson, qui est une spécialité tunisienne.
Et oui, le couscous de Sfar, exactement. C'est l'heure d'aller au marché, les amis. Côté météo, c'est l'automne, mais les produits de l'été font encore de la résistance, et tant mieux. Alors, direction le marché de Mirepoix en Ariège, pour découvrir vos paniers entre deux saisons.
J'ai trouvé des légumes bio et des fruits, et du raisin.
Les haricots, parce que c'est la fin de saison, ils sont encore magnifiques.
Il y a un peu de tout. Là, c'est la meilleure des saisons, puisque là, tout arrive à ce moment. Voilà. Tous les légumes de fin de saison, les tomates, les poivrons, aubergines, courgettes. Et on attaque les courges d'automne. Là, vous avez des pommes d'or, vous avez des potimarrons. On met un petit peu de crabe ou de crevette dedans. On charge la courge et on mange ça en entrée. Et c'est divin, on peut le dire. On peut le dire, voilà.
Bon, en ce moment, on a beaucoup de choses au jardin. Oui. Donc, j'ai un petit jardin personnel, puis on fait partie d'un jardin partagé.
Voilà. Et là, qu'est-ce que vous avez pris ?
Là, aujourd'hui, des patates douces, j'adore ça. Et un mesclum de salade. Déjà des butternuts, ouais, j'adore.
Des carottes, du pain, et voilà. Je vais faire une soupe, mais ça va commencer. Et les fans, on les donne aux ânes. Et oui, parce qu'on a des ânes.
Il y a un troupeau derrière. Alors, il faut nourrir la famille et nourrir les bruits. Ouais,
voilà. Aux ânes, j'avais compris, aux hommes. On donne les fans aux hommes. Non, c'est aux ânes. Merci, Benjamin Peter.
On peut les utiliser aussi. Il ne faut pas les donner aux ânes.
Mais hein. Oui, une soupe de fans de radis, c'est délicieux.
Ou de fans de carottes. On peut même utiliser toutes les fans des différents légumes qu'on a et on fait une espèce de petit bouillon avec ça et c'est très très bon.
Et en plus, c'est là que sont concentrées les vitamines, notamment la vitamine C qui est vraiment concentrée dans les fans de radis. Il y a des pommes aussi, hein, c'est la saison des pommes et c'est la saison encore des figues. Vous êtes en train de manger une figue, Olivier Pouls.
La fin de la saison des figues dans le sud, ouais, mais pas dans le nord, parce que pour une petite anecdote, moi j'ai un figuier en Bourgogne et il commence seulement à donner ses figues. Et l'an dernier, j'ai mangé les dernières figues sous la neige. Je vous raconte
quelle
pas
chance,
le plaisir.
Quelle chance. On vient d'entendre une dame sur le marché hein, qui achetait du mesclun, ce mélange de salade. Eh bien, restons dans la verdure avec une laitue pas comme les autres, la laitue asperge. Absolument, c'est pas du tout transgénique, ça existe. La laitue asperge, elle sera là juste après ça. A tout de suite sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Chaque semaine, vous le savez, avant de passer à table, nous nous arrêtons sur un produit du marché. Et au rayon des fruits et légumes de saison, eh bien, il ne faudrait pas oublier les salades. Avant de consommer les salades d'hiver, continuons les amis à nous faire plaisir avec les salades d'été aux feuilles tendres. Alors Charlotte Langrand, vous qui venez de nous retrouver à cette table, oui, des bons vivants, vous retrouverez régulièrement le samedi avec nous, avec Anne Lorfame, Yves Candebord et Olivier Pouls qui est là. Vous aimez la salade? Ça c'est déjà la première question qu'on a envie de vous poser. Ah, est-ce, oui, que vous aimez la salade?
J'aime la salade, elle est tellement variée en plus.
Vous pouvez rester, ça c'est bien.
Merci.
C'est ce que je voulais savoir.
C'est un test.
On va dire qu'il y a deux grandes familles de salades.
Oui, voilà. Hein. Pour schématiser, vous avez d'un côté les chicorées, type frisée ou endive, oui, qui poussent dans le froid, sans broncher, et les laitues, de l'autre côté, un peu plus tempérées, qui préfèrent les températures douces sur l'automne ou le printemps, et qui ne supportent pas les grosses chaleurs. Et puis, vous avez une exception qui confirme la règle, hein, quand même, c'est la Batavia et la Romaine, qui sont des filles du soleil. Elles aiment se prélasser au soleil et pousser dans le sud l'été.
Elles aiment faire bronzette, absolument. Alors, c'est vrai que moi, j'aime la laitue. La laitue, elle a toujours un peu une image un peu tristoune. Hein. On dit toujours, oh, tu vas avec ta feuille de laitue, elle est raplapla. Il y a plein de variétés de laitue,
oui,
Olivier
surtout,
Pouls.
On peut l'égayer, c'est délicieux, la laitue.
Bien sûr,
moi, ce que
j'adore.
J'aime, vous avez les romaines, par exemple, qui sont assez grandes. Ah, ils sont très croquantes.
Pour la César salade, c'est super.
Exactement,
ça.
C'est parfait. C'est, oui, parce que vous avez de la mâche, vous avez du goût, et vous pouvez tout cuisiner, les feuilles, même le cœur un peu dur, on peut le poêler. C'est absolument délicieux. Puis les laitues grasses, moi j'aime bien la petite sucrine. Simplement tranchée en deux, on fait sa vinaigrette et on vient la poser sur la demi-sucrine. C'est parfait.
On peut même les griller au barbecue, ça.
Exactement,
ça
parce qu'elles sont assez fermes.
Ça renforce leur amertume parfois aussi.
Et
ça.
Puis après, les laitues tiges, c'est celles qui poussent vers le haut, qui sont un peu plus rares, mais assez surprenantes.
Alors, elles existent justement, ces laitues tiges. Je vous en parlais tout à l'heure, juste avant la pause. Et moi, je l'ai découverte en préparant l'émission, pour tout vous dire. C'est la laitue asperge. Je pensais que c'était une
et
blague.
Le petit pois chou-fleur,
et le petit pois chou-fleur, et c'est ça, et la carotte concombre. Enfin, voilà, tous ces mélanges. Non, la laitue asperge, elle est très connue, elle est très appréciée, très cuisinée en Asie. Il y a quelques producteurs qui se remettent à la cultiver en France. Et justement, ce matin, on vous emmène découvrir cette tige pas comme les autres dans le Midi, direction Tourve. C'est Frédéric Michel, le correspondant d'Europe là-bas, qui va récolter les dernières laitues asperges avec le maraîcher Bruno Quéron, qui adore cette laitue asperge. Et on vous explique juste après comment la cuisiner. Récoltons-la d'abord.
C'est ça, la laitue asperge, la Celtus. Une variété qui est a priori d'origine méditerranéenne, mais qui a été cultivée en Chine et qui a été améliorée là-bas. C'est une variété qu'on trouve rarement en France, qui revient un petit peu. Là, on essaye de relancer ça avec d'autres producteurs. Et c'est assez demandé par la gastronomie.
On va en ramasser quelques-unes là pour la commande du début de semaine.
Voilà, donc là on voit la laitue asperge. Alors quand on la ramasse, on attend que la tige fasse une trentaine de centimètres, on la coupe à la base et on enlève les feuilles. Et on se retrouve avec une belle tige de 3 cm de diamètre.
C'est croquant, hein?
C'est très croquant, très frais. Le petit goût de noisette va arriver. Plus elle est mature, plus elle est sucrée, mais plus elle a une texture qui va petit à petit un peu fibrer. Plus elle est jeune, moins elle a de sucre, mais par contre, elle a une texture parfaite. Après, quand on la fait cuire, ça fait ressortir le goût, hein. On l'épluche sur toute la longueur. On la fait un petit peu à la vapeur et après on la poêle au beurre, ou alors directement poêlée au beurre. C'est très proche de l'asperge. C'est assez étonnant.
Et même visuellement, c'est assez étonnant. Merci Bruno Quairon, en tout cas au micro de Frédéric Michel, de nous avoir éclairé sur cette laitue asperge. On l'a là avec nous en studio. On dirait effectivement une grande asperge avec un toupet de feuilles de laitue sur le sommet. Alors on l'a cuisiné. Julien Hamet, qui travaille à la rédaction de cette émission, l'a cuisiné à la vapeur. Ça lui a pris 10 minutes. Et il a eu une bonne idée. Il l'a cuisiné façon œuf mimosa. Vous savez, comme on ferait avec le poireau vinaigrette.
Très bon.
Et je trouve qu'il y a une petite amertume aussi. Hein, c'est rigolo ça.
Surtout, ça a de la texture, ça garde de la mâche. Ça n'a pas le goût d'une asperge. Hein. C'est moins végétal. C'est assez doux et je trouve ça très intéressant.
Oui, c'est assez doux. Hein. Moi, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus amer.
C'est un petit peu aqueux, c'est tendre. Ça mérite vraiment le détour. Et là, on est loin des feuilles de salade qu'on achète en sachet partout en grande surface, Charlotte Langrand.
Mais pourtant, plus de 8 Français sur 10, Laurent, achètent de la salade en sachet déjà lavée et prête à l'emploi. Et ça existe depuis les années 80.
Elle n'est pas écolo. On perd des nutriments. Il y a beaucoup de javel, beaucoup d'eau, du plastique, du gaz pour gonfler le plastique.
Exactement.
Et elle coûte quoi ?
Elle coûte 3 fois plus cher. Et donc, elles perdent leurs minéraux, leur vitamine A. Et puis, écologiquement, elles sont conditionnées avec du plastique.
Et franchement, combien de temps ça prend de nettoyer une salade ?
Rien du tout. Une belle salade
ça prend
avec
5 minutes.
Une belle coupe franche, un trognon pas rouge, hein, bien fraîche, qui a été cueilli juste quelques heures, quelques jours avant au pire. Mais il ne faut pas qu'elle fasse trop de chambre froide non plus.
On les sort avec les
soreuses à salade.
Mais
bien sûr.
Et on a un croquant. Et puis surtout, dans la texture de la salade,
c'est pas la même chose. Je suis d'accord.
C'est pas la même chose, c'est pas le même goût.
On a plus de nuances.
Tout simplement, il y a du goût.
Exactement. On en revient toujours à ça. Vive le goût. Quoi de neuf au rayon alimentation ? Eh bien, du champ à l'assiette, on revient avec les nouvelles fraîches de Marion Sauveur. Ce sera juste après ça. À tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
L'actualité de nos assiettes, de l'agriculture à la gastronomie, c'est le menu des bons vivants chaque samedi. Alors elle ne raconte pas de salade, son journal n'est pas une feuille de chou, c'est le moment d'accueillir Marion Sauveur. Bonjour Marion.
Bonjour à tous.
Soyez la bienvenue. Le sourire, la banane, c'est une bonne vivante et il y a plein de choses dans votre journal, alors on va attaquer tout de suite. Tous au restaurant, Vera qui attaque le Michelin et un numéro vert pour parler aux agriculteurs. Eh bien c'est le menu de votre journal de la cuisine Marion. Tous au restaurant fête ses 10 ans et débute ce lundi.
Oui, votre invitée est notre invitée, c'est le credo de l'opération. Elle permet de ne payer qu'un seul menu pour deux. 1800 restaurants participent à l'événement, des restaurants de tout genre, hein, de la brasserie au gastronomique. Vous pouvez depuis mardi réserver votre table et pour déjeuner ou dîner entre le 30 septembre et le 13 octobre.
Une très belle initiative, hein. C'est Alain Ducasse qui a eu cette idée. C'est vrai que ça marche tous les ans.
Du coup, je vous invite.
Eh ben... je prends. Bon, on y va, très bien. Mais je voulais vous inviter. Alors, cette semaine, dans l'univers des chefs, il s'en est passé des choses, hein, Marion.
Et d'abord, Mauro Colagreco, sacré chef de l'année par ses pairs. Le chef argentin du Mirazur à Menton a déjà obtenu la 3e étoile Michelin et le titre de meilleur restaurant du monde, hein, cette année. Et dans un autre genre, Marc Vera a porté plainte contre le guide Michelin. Après la perte de sa 3e étoile, c'était en janvier dernier. Le chef savoyard au chapeau noir a expliqué que c'était à cause de ce déclassement sur Europe 1.
Tout simplement parce que c'est une première... Nous ouvrons l'établissement, vous allez voir, c'est jamais arrivé depuis un siècle, on a 3 étoiles. Et l'année d'après, nous enlèvons la 3e étoile. Sans aucune justification.
Et l'audience en référé est prévue le 27 novembre.
Non, mais c'est vrai que ces inspecteurs du Michelin qui pensent avoir vu du cheddar chez Marc Vera, on peut se poser des questions quand même.
Enfin, je pense que Marc Vera a aussi perdu une bonne occasion d'aller cuisiner tranquillement. Et franchement, ça n'a aucun sens.
Vous avez des questions à poser aux agriculteurs. Un numéro vert vient d'être lancé, Marion.
Oui, par le collectif Ici la Terre. Les agriculteurs veulent répondre aux accusations en tout genre et surtout rassurer sur les réalités du métier. Le numéro, c'est le 0805 382 382.
Soutenons nos agriculteurs et on essaye de le faire chaque semaine ici à la table des bons vivants. Place à votre cerise sur le gâteau maintenant. Alors cette semaine, c'est un restaurant à Paname, à la capitale.
Oui, un restaurant éphémère et ça s'appelle For the Love of Food, pour l'amour de la nourriture. Ouvert depuis 2 jours et pour 6 mois dans le 3e arrondissement de Paris.
Qu'est-ce qu'il a de particulier ? C'est romantique, c'est ça ? C'est votre côté jeune marié ?
Alors, il y a 3 chefs en fait qui cuisinent dans ce restaurant en même temps. Ce sont des chefs en herbe qui ont chacun un projet personnel, par exemple d'ouvrir un restaurant.
D'accord.
Ils s'installent chacun pour 1 mois. Il y aura donc 18 chefs en 6 mois. Le principe, il est tout simple. Vous choisissez un menu sur le site internet fortheloveoffood.paris. Vous réservez et à la fin de votre repas, vous notez le menu du chef que vous avez goûté. Voilà, présentation, saveur, originalité. Et les 3 meilleurs chefs vont gagner une bourse. En ce moment et pour 1 mois, il y a 3 femmes chefs, 3 cuisines différentes, une française, une italienne et une brésilienne. Moi, j'ai adoré les crackers de tapioca, c'est celle de la brésilienne.
Et combien ça coûte cette histoire ?
Alors, c'est 20 euros pour entrée plat ou plat dessert, 25 euros entrée plat dessert.
Merci Marion Sauveur.
Avec plaisir.
Et à plus tard à la table des bons vivants. Tous les samedis, vous le savez, nous parlons ici de l'importance de cuisiner au quotidien pour se faire plaisir et du bien. Alors c'est justement l'adage de notre première invitée, originaire du Maroc. Elle a créé avec son mari Jean-Louis Servan-Schreiber le magazine Psychologie. Quand elle ne cuisine pas pour ses enfants et ses petits-enfants, elle écrit des livres de cuisine. Après le bonheur de cuisiner, elle revient avec les 300 recettes de sa vie. C'est Perla Servan-Schreiber, notre invitée. Bonjour Perla.
Bonjour.
Vous êtes rayonnante. Bon, on est ravis de vous recevoir. Vous êtes rayonnante, vous êtes lumineuse. Alors, il y a déjà quelque chose que j'aime beaucoup chez vous avant votre cuisine, c'est votre prénom, Perla.
Oui.
Ça vient d'où ce prénom ?
Je l'ai détesté quand j'étais petite.
C'est
parce
vrai ?
Que, vous savez, quand on est petit, il comporte un prénom qui n'est porté par personne d'autre. C'est juste insupportable.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Mais voilà, et après, c'est devenu vraiment mon identité.
La cuisine au quotidien, c'est un vrai plaisir pour vous ?
Oh oui, c'est presque une nécessité pour mon équilibre intérieur. Vraiment, c'est un moment de recueillement pour moi. J'ai vraiment le sentiment que quand je cuisine, je transmets le meilleur de moi-même.
Alors, je le disais, vous avez créé le magazine Psychologie avec votre mari. On peut donc quand même concilier santé et gourmandise, hein, parce que dans Psychologie, on parle du bien-être, du développement personnel.
Voilà. Moi, j'ai 2 obsessions. Évidemment, faire plaisir à ceux qui sont autour de ma table. Et quand ils émettent des envies, comme le fait très régulièrement mon mari, c'est un vrai bonheur que de mettre ça en musique et en casserole. Mais mon deuxième obsession, c'est que je veux dire et redire, et je suis militante depuis les années 96, pour dire qu'il faut que dans une famille, cette place à la cuisine ne soit pas vacante. Certes, on peut ne pas faire la cuisine tous les jours, puisqu'on a la chance maintenant, voilà, en tout cas, on a la possibilité de commander, de se faire livrer absolument ce qu'on veut. Mais il y a dans le fait d'être là, à la cuisine, l'homme, la femme, un enfant, enfin, peu importe, cette place est importante parce que c'est ça qui crée du lien dans une famille, dans un cercle d'amis. Et c'est ça qui fait société.
100% d'accord avec vous, évidemment.
Ah oui.
Mais nous sommes d'accord. Et surtout,
c'est une thérapie fantastique.
Mais bien sûr,
de cuisiner.
Ça permet de cultiver les différences, le goût de chacun. On n'aime pas tous la même chose.
Franchement, là, on arrive quand même à un niveau de singularité. Réunir plus de 4 personnes et encore, ça devient une casse-tête chinoise.
Alors, je voulais en parler parce qu'aujourd'hui, on cuisine beaucoup sans. On cuisine sans gras, sans lactose, sans gluten, mais on oublie de cuisiner avec, quoi.
Hein,
avec plaisir.
Pas. Moi, je ne supporte ce discours du sans, ni en cosmétique, ni en cuisine. Et on me donne quoi alors ?
Évidemment, il y a des gens allergiques, bien entendu, qui sont vraiment intolérants.
Non,
on ne parle pas de ceux-là qui doivent suivre des régimes spéciaux.
Bien sûr.
Et ce qui est inquiétant, c'est que la table, jusqu'à maintenant, c'était l'endroit où tout le monde se réunissait et qui faisait consensus.
Exactement.
Maintenant, c'est l'endroit où on s'engueule.
C'est ça.
Mais manger ensemble et la même chose, c'est ça qui est le partage.
Eh bien, c'est ce que nous allons faire avec vous. Omelette aux poireaux et à la mozzarella, un couscous au poulet et aux légumes, des champignons crus aux herbes fraîches, des recettes simples de saison. Et vous êtes venu avec une brioche, je crois.
Oui, je suis venu avec une brioche, parce qu'en ce moment, c'est...
C'est la saison de la brioche.
C'est la saison de la brioche.
Mais moi aussi, je suis venu avec ma brioche.
Elle pousse. Militante du bien manger, dans la joie, quel bonheur. Merci Perla Servan-Schreiber d'être avec nous et de partager les recettes de votre vie. On revient dans un instant, juste pour déguster la brioche et continuer à parler de ce plaisir de cuisiner au quotidien, à la portée de tous. Et ça coûte pas cher. À tout de suite.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Les recettes de ma vie, tout un programme. Eh bien, c'est celui de Perla Servan-Schreiber que je reçois aujourd'hui à la table des bons vivants. Vous êtes une cuisinière autodidacte, on peut dire,
Perla Servan-Schreiber. Je suis juste une femme qui aime faire la cuisine et j'en fais beaucoup. J'ai eu la chance, dans le métier que j'ai exercé, que vous rappeliez tout à l'heure dans la presse, de rencontrer beaucoup de chefs. J'ai eu la chance de me frotter à eux et d'avoir des tas de trucs qui m'ont aidée. Et ce livre, d'ailleurs, est un remerciement à mes maîtres.
Oui, parce qu'elles viennent d'où ces 300 recettes? C'est des recettes comme glanées au fil de vos rencontres,
de
votre famille?
Il y a la famille, il y a les rencontres, il y a les voyages, où j'essaye de revenir avec des produits que je ne connais pas, des épices que je ne connais pas, et j'essaye de retrouver ces goûts-là. Mais il faut dire que, vous le rappeliez tout à l'heure, étant donné que je suis marocaine, j'ai à peu près le sens des épices quand même.
Ah ben on le voit, ils sont présents dans vos recettes. Et voilà. Moi, ce que j'aime, c'est que chaque recette a une histoire. C'est pas un livre comme ça où on enfile les recettes les unes après les autres, vous racontez des histoires. Et elles ont des jolis noms, en plus, vos recettes. Je vais en citer quelques-unes. Il y a la raie au sourire, le secret du risotto parfait qui n'attend pas. Il y a celui qui attend un petit peu aussi, qui est juste derrière.
J'ai deux risottos.
Il y a la bolognaise comme à la maison. La raie au sourire, c'est quoi ça?
La raie au sourire, c'est une expression de cette femme que j'ai adorée, qui avait ce restaurant dans le 14e qui s'appelait Lulu, et avec sa casquette, vous vous souvenez?
C'était l'assiette. C'est
exactement.
L'assiette de David Riegelberg d'aujourd'hui, alors, oui.
Et c'est elle qui faisait une raie inoubliable, et je lui demandais tout le temps, j'étais collée à elle à la cuisine, je dis, mais comment tu fais pour obtenir une raie comme ça, moelleuse, magnifique, blanche,
surtout. C'est délicieux, ça.
Alors elle me dit, tu la cuis au sourire. C'est bien pour votre émission, moi.
C'est joli, ça.
Cuire au sourire, ça veut dire à très petit feu et qu'il ne faut pas sentir le bouillon.
C'est des petits frémissements, effectivement.
C'est des petits frémissements et c'est vrai que ça change tout. La chair de la raie n'est pas martyrisée.
Et elle vous disait aussi une chose jolie, elle vous dit ce n'est pas un poisson volant. Hein,
mais ce n'est pas un poisson
mais pourtant,
volant.
Ce sont les deux ailes qu'on mange.
C'est vrai. Donc je capte comme ça avec des amitiés, des rencontres, des trucs que j'adapte et que j'adopte aussi, mais je rends toujours hommage à celui qui me les a donnés.
Charlotte Langrand.
Est-ce que c'est vrai, Perla, que la cuisine est tellement intime pour vous que vous avez une porte secrète entre votre bureau et votre cuisine que seul vous pouvez emprunter?
Oui.
Ah bon?
Oui. J'ai une porte qui relie mon bureau et ma cuisine, grâce à quoi j'ai sauvé plusieurs compotes de pommes qui menaçaient de cramer, parce que comme ça, au moins, à l'odeur.
Ah, c'est génial.
Voilà. Mais c'est vrai, et ça c'est une idée d'une amie architecte qui était venue à la maison et qui m'avait dit « mais je comprends pas pourquoi tu relis pas tes deux vies ».
Mais elle a raison.
Et ça a été fait, et je peux pas vous dire ce que c'est, ça me change ma vie.
Ça change tout.
C'est-à-dire que tout d'un coup j'ai une unité de vie. Moi j'aime bien ne pas me sentir comme ça morcelée. Et là, tout d'un coup, ma vie, elle se passe là.
Votre cocon.
Voilà.
Alors, vous nous avez fait une brioche, Perla Servan-Schreiber, une brioche qu'on retrouve dans votre livre, là, paru chez Flammarion. Elle est délicieuse, votre brioche, parce qu'elle est aérienne. Et là, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est qu'elle a une petite croûte autour. Mais elle est bien croustillante, en fait.
Ah oui, oui. Alors, il a fallu que je me mette à la brioche, mais vraiment en essayant. C'est toujours pareil. Mais enfin, vous le savez, bien sûr, on essaye 40 fois un truc avant d'arriver à ajuster comme on l'aime.
Mais oui, comme toujours, les choses les plus simples sont les plus compliquées parfois. Comment vous faites?
Alors, j'ai pas de secret vraiment. C'est du temps.
C'est
mais c'est pas du temps à la faire. Évidemment, je la fais avec un robot. Hein, vous doutez, je la fais pas à la main. Et c'était effectivement un temps important pour la touiller. Ensuite, un temps important pour la lever. Et tout ça en trois temps.
C'est ça.
Mais celle-là, je peux congeler la pâte crue. Puis je la dégèle la veille et je la fais cuire le matin.
Et on a toujours de la brioche fraîche.
De la brioche fraîche.
Et comme vous êtes une gourmande, Perla Servan-Schreiber, vous avez apporté aussi des melons au gingembre. Là. C'est entre la confiture et la compote, ça.
Oui, exactement. Alors il faut absolument la garder au frigo, si jamais vous ne la mangez pas aujourd'hui. Parce que je ne suis pas confiturière du tout, je ne sais pas faire les confitures. Mais comme je vis en Provence une grande partie du temps, ces melons, on ne peut plus supporter de les boire. Alors on s'est dit, je vais bien trouver un truc. Et voilà.
Il y a un peu de cannelle dedans, non?
Oui, il y a de la cannelle et du gingembre.
C'est le Maroc.
Il y a de la cannelle et du gingembre. Voilà.
Vous dites une très jolie chose, la cuisine, ça ne se garde pas pour soi, ça se transmet. Et déjà, Perla, en 96, avec Nourrir de plaisir, un de vos beaux livres, vous tiriez la sonnette d'alarme, il faut nous remettre au fourneau et transmettre. Ah oui. Il ne s'agit pas simplement de cuisiner, il s'agit de transmettre. Comment on fait pour bien transmettre alors?
D'abord, on fait.
Et on montre.
Je crois que c'est de faire devant les enfants, les adultes, les amis, les voisins, peu importe, on fait. Et quand c'est bon et quand c'est joyeux, ça, moi, je crois beaucoup à ça, quand c'est bon et que c'est joyeux, eh bien, on s'y met.
À propos, justement, c'est la rentrée scolaire. Ah oui. Je voudrais juste parler de l'importance du bien manger dans les cantines pour nos enfants. Ah. Vous savez que toutes les cantines ne sont pas égales devant le bien manger, les produits locaux et bio. Il y a un mouvement qui est en marche avec la loi Alim autour de ça. Et il y a un petit guide qui s'appelle Cantine Bio. C'est le guide pratique des élus. Vous le trouverez sur le site 1 plus bio qui aide beaucoup les cantines à bien cuisiner.
Formidable.
Et ça, c'est un guide à destination des élus. Tous ces élus qui disent parfois « Ouais, mais ça coûte trop cher, c'est compliqué. Oui. » Eh bien non, vous leur dites de Formidable. Télécharger ce guide. Et ça leur permettra de pouvoir peut-être se mettre au bio dans leur cantine scolaire. Vous restez avec nous, Père Lasserre-Vanchrever?
Non seulement je reste avec vous, mais j'aimerais bien, cette initiative est formidable, mais je voudrais qu'on dise bio et bon.
Oui, pas bio au bout de la planète avec...
Non, je dirais même bon et bio.
On est d'accord, hein, du d'accord. bon d'abord, et du local, et de saison bien entendu. On revient dans un instant et nous rendrons hommage au président Chirac qui était un très bon vivant.
Europe 1, la table des bons vivants, Laurent Mariotte.
En cuisine, en voiture, en rentrant du marché, en podcast, hein, tous les moyens sont bons pour nous écouter à la table des bons vivants. Vous êtes ici chez vous, hein, vous le savez, Perla Servan-Schreiber est notre invitée avec les recettes de sa vie. 300 recettes de sa vie parues chez Flammarion. La recette la plus ancienne, qui est la première que l'on vous a apprise, elle est dans ce livre?
Alors d'abord, on ne m'a jamais appris. Je m'y suis mise, mais ça, c'est parce que j'ai eu la chance d'avoir une mère qui faisait magnifiquement la cuisine et la pâtisserie.
Mais vous a appris quand même.
De la voir.
Oui, c'est ça, voilà. Donc, voilà. C'est la transmission. Oui,
comme on avait une toute petite cuisine, j'étais au Maroc, on était une grande famille, mais on avait une toute petite maison. Il n'y avait que des braseros posés par terre à l'époque. Hein. Oui. Il n'y avait pas de gazinière, il n'y avait rien du tout. Elle cuisait comme ça. Elle passait son temps à me dire « sors de là », parce que... Effectivement, c'était trop étroit. Mais voilà.
Vous y êtes restée.
Et j'y suis restée.
La voilà. Purée d'artichaut à la sauge, ça c'est une recette ancienne ou c'est une recette récente?
Non, c'est une recette récente.
Ça,
la sauge, bien. J'ai découvert la sauge, en tout cas, je ne sais pas, il y a une dizaine d'années seulement, moi.
Très
je ne connaissais
idée.
Pas la sauge.
Très bonne idée d'avoir
je connaissais
associé.
Pas la sauge. C'est la, délicieux.
La sauge et l'artichaut. Et
évidemment, ouais. Les Italiens l'utilisent depuis bien, bien plus longtemps. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus ancien? Oh, probablement une soupe marocaine qui s'appelle la harira.
Ah bah oui, bien épicée, bien relevée, j'adore.
Un plat unique, voilà, qui se mange tous les soirs pendant le ramadan, hein, par les musulmans qui font le ramadan, et qui est une soupe, mais moi j'adore ces plats rustiques qui sont plats uniques.
J'adore, bienvenue
et
au club.
Et on trouve ça dans toutes les traditions, le minestrone c'est l'équivalent de la harira,
le borsch dans les pays de l'Est.
Voilà, exactement, on retrouve tout le temps ça.
Alors Jacques Chirac nous a quittés ce jeudi et quand on sort des considérations politiques, la première chose qui revient quand on parle de lui, c'est qu'il était un bon vivant. On a entendu ce mot dans toutes les radios ces derniers temps. Alors ses sorties au Salon de l'Agriculture sont des festins dignes de Gargantua. Notre émission s'appelle La Table des Bons Vivants, donc normal de lui rendre hommage. Écoutons Bernard Vaussion, c'était le chef des cuisines de l'Élysée pendant 40 ans. Il témoignait dans la matinale de Mathieu Béliard de l'importance de bien manger pour Jacques Chirac.
Manger pour lui, c'était très important. Vous voyez sur son visage, le sourire, lorsqu'ils étaient en couple, qui regardaient la télévision pendant le dîner. Et donc, il m'appelait à la fin du dîner. « Ah, merci, merci chef, je me suis régalé. » Voilà. Partout où il allait, en province et tout ça, les gens avaient plaisir à lui cuisiner une tête de veau. Donc, il nous avait dit « Écoutez, on va calmer un petit peu la tête de veau parce que voilà, on m'en sert un peu partout. » On faisait très attention à chaque repas, bien sûr, de ne pas oublier ces petites bouteilles de Corona qui étaient au frais et les escargots avec une bonne dose de beurre de persillade quoi, pour tremper son pain dedans. Voilà, et là, ça le faisait saliver. Et puis, la petite anecdote, c'est que le matin, il m'avait demandé, il m'a dit « Ne venez pas trop tôt, le petit déjeuner, je me débrouillerai. » Donc, il faisait chauffer son lait et il s'en allait. Et puis, donc, le lait débordait tous les matins, voilà.
Ah, mince, le lait a débordé.
Et les pommes aussi.
Hein, les pommes, il adorait les pommes. Il parlait de la tête de veau, Bernard Vaussion. Moi, j'ai passé un petit peu de temps avec lui il y a quelques temps et il me racontait que cette légende de la tête de veau est vraiment une légende parce qu'il n'en a mangé qu'une fois ou deux à l'Élysée. Il a eu le malheur de dire ça un jour. Donc, partout où Jacques Chirac arrivait en province, on lui servait une tête de veau. Et c'est depuis cette époque-là qu'on ne communique plus sur le plat préféré des chefs d'État français.
Pour éviter qu'ils ne mangent que ça.
Pour éviter qu'on leur serve toujours la même chose. Voilà. Donc, il y a une grande légende autour de la tête de veau, mais il n'en a pas mangé tant que ça, Jacques Chirac.
Et puis, il paraît que le Salon de l'Agriculture, pour lui, qui est d'habitude un marathon, et il avait une telle bonne constitution que pour lui, il mangeait partout, à tous les stands, et c'était un plaisir.
C'était
pour
un festin, il faut le voir.
Phénomène.
12 heures de dégustation consécutive.
Ah oui. Et de la bière aux escargots en passant par les charcuteries.
Fallait avoir de la santé quand même.
Fallait avoir de la santé, une belle constitution, absolument.
Oui, formidable.
Merci Père Lasserre-Vanchrever d'être venu à la table
Merci
des
beaucoup.
Bons Vivants. Je rappelle votre livre, il vient de sortir, Les Recettes de ma vie. 300 belles recettes avec toute une histoire parue aux éditions Flammarion. Merci Perla.
Merci infiniment.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Bientôt midi, moins le quart, l'ami Jean-Luc Petit-Renaud, vous le savez, pointe le bout de sa fourchette. En se baladant sur la rade de Toulon, le camarade Jean-Luc a déniché une adresse comme il en a le secret, une auberge en bord de mer, bon marché, familiale, où l'on peut manger à l'ombre des tamaris. Bien le bonjour, l'ami Jean-Luc.
Bonjour mes vrais amis, mes beaux gourmands. Alors aujourd'hui, je vais vous donner un coup de cœur qui est tout récent, qui a une quinzaine de jours, pour une auberge qui est juste à côté de Toulon, en bord de mer, à la Seyne-sur-Mer exactement, et c'est sur la petite route de Fabrègues. C'est la petite route comme un chemin de douanier qui longe la Belle Bleue. Il y a là une institution qui a un siècle, qui s'appelle les Roches Rouges, ou chez Daniel et Julia. Daniel est le papa, qui a 80 et quelques années, et Julia, ben, c'est la fille qui a hérité tout le savoir de son papa. J'aime cette maison parce que ça sent la famille. C'est une maison à garder pour soi, pour goûter la plus belle bouillabaisse de la terre, avec la rouille, avec plein de petites choses merveilleuses qui sont issues du petit pointu d'un pépé qui arrive tous les matins. Il pointe le bateau, c'est le cas de le dire, juste au pied de l'auberge et il décharge sa pêche. Elle lui prend toute sa pêche et elle va le distribuer en fonction de ses menus. À l'intérieur de cette maison, il y a le bouchon provençal avec un menu à 18 euros, 13 euros, un plat du jour avec la Belle Bleue qui est là juste en train de vous prendre dans ses bras comme une sorte d'étole bleue posée sur vos épaules. C'est beau. C'est bon. Et elle a une conscience professionnelle vraiment magique. Quelle merveille cette adresse.
Mais on achète, on prend Jean-Luc.
J'ai qu'une envie, hein, c'est de prendre l'avion, le vélo,
mais
le train, n'importe quoi.
Le pédalo,
quoi pour y aller.
N'importe. Chez Daniel et Julia, les Roches Rouges, donc, qui est plutôt gastronomique, et le Fabrègues, ce bouchon provençal pas cher, donc 13 euros le plat du jour.
Bouillabaisse.
On achète une belle bouillabaisse. Allez, ne bougez pas, nous revenons avec une femme d'exception dans un instant à la table des bons vivants. La bonne vivante Chantal Lobby sera avec nous juste pour le plaisir. A tout de suite sur Europe 1.
On passe à table sur Europe 1.
Si j'ai pas mes 5000 calories, je suis une loque.
Laurent Mariotte.
Appelez-moi super, pas de chichi.
Soyez les bienvenus.
5000 calories, moi ça me va.
C'est le minimum. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Des salades de saison qui nous veulent du bien. Un dossier sur le plaisir de cuisiner avec Perla Servan-Schreiber. Eh bien, on prend soin de vous hein, ce samedi matin à la table des bons vivants depuis 11h. Et ça y est, c'est l'heure d'accueillir notre invité. Alors, après avoir grandi en Auvergne, entre Puy-de-Dôme et Haute-Loire, elle débute sur FR3 comme speakerine avant d'atterrir sur la planète nulle, entourée de ses trois fidèles copains, Alain Chabat, Dominique Farrugia et Bruno Carette. Gourmande, elle écrit 20 recettes de cuisine et les raconte avec l'aide de trois mannequins dans Kitchen Dells. Laisse tes mains sur mes hanches, les souvenirs, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Aujourd'hui, le cinéma se l'arrache. C'est la délicieuse Chantal Lobby, notre invitée. Bonjour Chantal.
Wow, bonjour.
Bonjour.
Ça m'a mise en appétit.
C'est votre mise en bouche.
Oui, c'est ma mise en bouche magnifique.
Je sais que vous aimez bien ce mot, mise en bouche.
Oui. Hein, c'est beau, mise en bouche.
C'est un joli nom. Et on est ravis de vous recevoir, d'autant plus que vous n'êtes pas là pour vendre un film, un livre. Vous êtes venu simplement par
pour
plaisir.
Pour vous, Laurent.
Et ben, je voudrais
que
vous
je
dire
adore,
merci.
Que je vous suis. J'adore vos recettes télé.
Ben, c'est partagé.
Vos petites recettes télé de temps en temps, j'adore, je les prends et puis je me les prends. Et j'essaie de les... Je ne dis pas que j'essaie de les faire parce que machin. Mais
si, parce que vous cuisinez avec les saisons, vous faites attention à ce que vous mangez. Vous êtes quel genre de bonne vivante, Chantal Lobby?
Ben, une bonne vivante qui écoute un peu ses goûts. Je ne suis pas mode, je ne suis pas voilà, ce qui se fait, ce qui se mange, ce qui ne mange pas, c'est moi, c'est mes goûts. Donc quand arrive le printemps et l'été, ben j'ai envie de grandes assiettes avec plein de choses crues dedans, de bons légumes, des petites entrées diverses.
Je vous ai fait une fricassée de figues.
Vous m'avez fait une fricassée de figues et ça m'a rendu folle parce que c'est mon truc du moment. Ça,
c'est la fin de celle
voilà.
Du Sud.
C'est magnifique, elles sont délicieuses.
Figues de Solliès gorgées de sucre, elles explosent hein, tellement elles sont gorgées
très, très
de sucre
bonne.
Sur les étals. Charlotte Langrand, vous validez aussi?
Ah oui, je valide complètement.
Ah,
oui, oui.
Très très bien,
très
on prend. Vous faites attention à ce que vous mangez, Chantal Lobby, hein. Vous mangez sans gluten?
Sans lactose et sans gluten. Mais je ne fais pas attention, ce n'est pas une question de régime, c'est une question de bien-être.
C'est ça, vous sentez mieux depuis que vous avez arrêté?
Absolument.
Voilà. Mais vous savez que le gluten aussi, on s'est rendu compte qu'on en mangeait beaucoup trop dans des farines qui étaient boostées en gluten, des variétés modernes de blé qui ont fait qu'on est devenu, on va dire, un petit peu intolérant au gluten. Mais quand on est avec des farines anciennes, vous avez essayé les farines anciennes par exemple?
Non.
Non. Je suis
non.
Sûr que vous toléreriez peut-être...
À l'époque, j'en mangeais.
Oui, voilà.
Je suis une ancienne, moi. Hein. Donc à l'époque, j'en mangeais des farines.
Mais elles ne sont pas et aussi puis... anciennes que ça
non,
quand même. Hein.
Non,
elles n'étaient pas aussi anciennes.
Non, non, elles sont plus anciennes.
Oui, elles sont
voilà,
beaucoup
c'est ça,
plus anciennes.
Il est cool. Ça fait du bien.
Quel est votre goût de la semaine, Chantal Lobby?
Les olives.
Ah.
Des olives vertes. Non, mais l'autre jour, je suis allée chez un Grec, chez qui je vais tout le temps. Et je prends tout le temps des olives au citron. Puis je vois des grosses olives au loin. Je dis, c'est quoi ça? Ils me disent, c'est des olives complètement nature, sans rien dedans, sans sel, sans rien. Je dis, je veux goûter. Et depuis que je les ai goûtées, je ne pense qu'à ça. Je dois m'en taper 10, 15 par jour.
C'est bon.
Des grosses olives. Et j'adore.
C'est bon, c'est
j'adore.
Une belle olive.
Voilà.
Alors, on va parler de la place des femmes dans la gastronomie, Chantal, mm-hmm. avec Charlotte qui est à côté de vous. C'est vrai qu'entre les idées reçues et les restes de machisme, ce n'est pas toujours facile pour elle de se faire entendre. Et Charlotte, on va dire que l'année gastronomique a commencé avec un petit scandale dans le monde gastronomique.
Oui,
racontez-nous.
Un petit scandale, Laurent. C'était la semaine dernière à Paris, pendant le tout premier colloque des 50 Best, là, ce classement des 50 meilleurs restos du monde, qui a été créé en 2002 en Angleterre pour concurrencer le guide Michelin. Alors, il y avait là toute la presse gastronomique, nationale, internationale.
Ah, il y avait du beau monde, oui.
Ah oui, de nombreux stocks étoilés. Et sur scène, autour du premier de la liste, Mauro Colagreco, le chef du Mirazur à Menton, il y avait trois autres chefs. Alain Passard, Romain Médère, Yannick Aleno et Bertrand Gribault, c'était quatre d'ailleurs.
Ouais, donc jusque-là, tout va bien.
Ils discutaient gastronomie. C'est alors qu'un journaliste italien relève l'anomalie de ce casting 100% masculin.
Que des mâles.
Voilà, mais où sont les femmes?
Bah voilà. Oui, c'est ça.
Et justement, il les apostrophe d'un messieurs. Où sont les femmes? Alors, le plus gênant était à venir avec la réponse pour le moins maladroite du chef Yannick Aleno, qui explique qu'il existe des freins structurels à la présence des femmes sur le devant de la scène culinaire, qu'elles demandent moins de services du soir pour pouvoir garder les enfants. Et il ajoute, je cite, « l'ADN des femmes, c'est d'enfanter ».
C'est pas tout neuf comme réflexion.
Tollé, évidemment, dans la salle, hein, parce que bon, même si le sujet...
Ça réagit,
oui. Et là, oui, il y a eu des sifflements, effectivement, ça réagissait beaucoup. Parce que là, le sujet est récurrent dans les fourneaux, hélas. Mais au lieu de m'attarder sur le discours de Yannick Aleno, qui s'est depuis excusé sur Twitter, je voulais plutôt parler justement de ces femmes chefs qui démontrent tout le contraire. Alors, parlons d'Amandine Chéniaud, qui ouvre bientôt son restaurant Pouliche, de Stéphanie Lequellec, 3 enfants et 2 étoiles, qui ouvrira la scène en octobre. Lisons l'excellent nouveau livre de Sonia Esgulian et Alessandra Pierini, venue vous rendre visite
la semaine dernière, Laurent. Oui, on peut cuisiner et faire des enfants, absolument.
Exactement, ou alors lisons aussi celui de Jessica Prialpato, la pâtissière du Plaza Athénée, qui vient de donner naissance à son premier enfant, tout en étant désignée, et là c'est un peu ironique, la meilleure pâtissière du monde par... Les 50 Best, justement.
Oui.
Alors, on pourrait parler aussi d'Amélie Darvas et Gabi Benicio à Montpellier, Nadia Samut à Marseille, Fanny Rey à Saint-Rémy-de-Provence.
Oui, il y en a plein.
J'en passe.
Bien sûr,
évidemment.
Mais il y a un homme quand même qui a rétabli un petit peu la justice dans cette histoire. Non?
Exactement, c'était en plein 50 Best, justement. Bertrand Gribault, le chef de chez Septime, a montré qu'il y a des hommes et même des chefs pour qui c'est évident de partager les tâches familiales. Et parce que lui, avec sa femme, sa compagne, la chef Tatiana Leva, ils ont chacun plusieurs restaurants et ensemble 2 enfants en bas âge.
Et la parité en cuisine, on s'organise, on peut être un couple et faire la popote.
Exactement. Et oui, et puis on parle tout, quand on raconte des trucs, on dit tout le temps, c'est quoi la recette de ta grand-mère? On parle tout le temps des recettes de grand-mère, des cuisines de la maman, des choses comme ça. C'est souvent ce qu'on entend dans les conversations, en tout cas. Ma mère, elle me faisait ci, il y avait des bonnes bouffes que faisait ma mère ou ma grand-mère.
Ça va changer, vous allez voir. Mon père me faisait ci, mon grand-père me faisait ça. Ça existe aussi, voilà.
Moi, il me faisait pas grand-chose.
Il me faisait 2 œufs au plat. Moi, la première chose que j'ai cuisiné, c'était 2 œufs au plat. J'ai cuisiné comme mon grand-père.
Et ben voilà.
Mais il m'a pris que ça. Mais c'est mieux que rien. Ouais. Bah, merci en tout cas, Charlotte Langrand. Chantal, on va parler tout à l'heure aussi de ce qui vous fait rire en cuisine. Et vous avez commis une jolie série qui s'appelait Les Kitchen Dells.
Ah oui.
Et on écoutera un extrait. Chantal Lobby est notre invitée. On est ravis de vous
recevoir. Merci, Laurent.
On a fait le plein de figues pour vous. C'est bientôt l'heure du plat du jour. Une pizza napolitaine, mais sans gluten. Pour
yes.
Vous, hein, vous allez
vous
voir.
Êtes très fort.
A tout de suite sur Europe 1.
C'est moins cher dans le marché couvert. Allez, allez, allez.
Allez, 3 pizzas gratuites, la madame dans le melon. Du beau melon, les 4 pour 5 euros.
Europe 1, 11h, midi 30. La table des bons vivants. Laurent Bariotte.
Le cri de la laitue asperge, les parfums d'une auberge de poisson, la saveur d'une pizza au feu de bois dans un instant. Tous nos sens sont en alerte depuis 11h et nous sommes en bonne compagnie avec Chantal Lobby. Merci infiniment d'être avec nous,
merci.
Chantal, et de partager ce déjeuner du samedi midi. Qu'est-ce que vous faites en général à cette heure-ci le samedi? Vous déjeunez au restaurant? Vous déjeunez chez vous?
Non, je déjeune chez moi
vous.
Souvent. Ça dépend, en famille ou pas. Même des fois toute seule.
Un beau saumon papillote, comme vous nous l'avez dit.
Un petit saumon papillote, des petites choses que j'achète parce que j'ai trouvé chez le traiteur, ça m'a attiré. J'aime bien les avocats, j'aime bien tout ça.
Vous avez grandi en Auvergne, Chantal. Ça ressemblait à quoi les tablées familiales? On mangeait quoi?
Ah, c'était des grandes tablées. Bah, c'était de la bonne bouffe. C'était de la bouffe que moi je dis à l'ancienne.
Roborative.
Oui, c'est-à-dire, voilà, il y avait du coq au vin, il pouvait y avoir des gros plats de farcis que ma grand-mère allait porter chez le boulanger qui avait un four à bois.
Ah oui.
pour faire cuire le plat là-dedans, c'était délicieux.
C'est comme ça que sont nés de grands plats familiaux, rustiques. Le Bekoff en Alsace, par exemple, oui, le boulanger faisait cuire les plats.
Il faisait cuire le pain le matin, et puis après, quand il avait fini ses fournées, on profitait de la chaleur résiduelle. Et chacun emmenait son plat, on le laissait dedans, et puis on partait travailler, on le récupérait en fin de journée.
Oui. Alors, pendant vos belles années Canal+, avec notre belle bande de nuls, Chantal Lobby, vous avez commis une belle série qui s'appelle Les Kitchen Dells.
C'est bien après les nuls.
C'est après les nuls, ça, oui.
C'est quand Alain Chabat avait fait ce qu'on appelle les Bricole Girls, c'est-à-dire faire du bricolage avec des jeunes filles un peu dévêtues.
Très sexy.
À l'époque, on avait le droit de faire ce genre de choses.
Ah ben, on ne peut plus aujourd'hui. Hein.
Maintenant. Ah, et un jour, il m'a appelé, il m'a dit « T'aurais pas envie de faire de la cuisine avec des mecs dans le même style ?» Alors, je dis « Si, c'est moi qui fais passer le casting. » Et j'ai un peu dévêtu les garçons, c'est-à-dire que je ne les ai pas mis tout nus, mais je veux dire, c'était un peu érotique.
Et c'est vous qui écriviez les recettes et vous les commentiez. Et bon, on va écouter, tiens.
Andrew va nous réaliser une salade de carottes, dite salade à la marocaine, pour 6 personnes. Peler les 6 carottes avec un peleur, plus communément appelé un économe à carottes, car il fait des épluchures très fines. C'est vrai qu'on ne pense pas toujours à la carotte, c'est pourtant un légume formidable. Au fait, Andrew, tu connais la différence entre une vierge et Paris ?
Non.
Paris sera toujours Paris.
J'ai oublié. Mon Dieu, il faut que je réécoute.
Ah, c'est génial.
Que je me refasse.
Ah non, y en a
je m'étais beaucoup amusée.
Ah oui, ça s'entend. Puis il y en a un autre avec une salade de concombre qui est magnifique aussi. Ah oui.
Et puis je donnais des vrais conseils. C'est des conseils pour des gens comme moi. C'est-à-dire comment se rappeler de la cuisson des œufs. On dit toujours, par exemple, 3 minutes pour un œuf coq, 6 minutes pour un mollet et 9 minutes pour un dur. Alors je me suis dit, trouvons un moyen mnémotechnique. Alors j'avais dit coq, c'est au cul. 3. Oui. Mollet M-O-2-L-E-T, comme les mollets. Et puis 6 et 3, 9 pour le dur.
Oui, mais ça demande une petite gymnastique, parce que 3, 6, 9, c'est rapide aussi en même temps.
Oui.
Oui, c'est vrai, c'est bête. Mais voilà. Maintenant, oui, on le fait, ça, 3, 6, 9. Oui, c'est vrai.
C'est moins drôle.
Il faut le mettre dans le bon sens.
C'est moins drôle, je suis d'accord, Charlotte.
Il faut le mettre dans le bon sens.
C'est beaucoup, oui, il faut le mettre dans le bon sens, absolument. Oui. Vous aimez la cuisine italienne, Chantal Lobby ?
Oui, mais maintenant, j'en mange moins puisque je suis sans gluten, donc les pâtes. Mais en même temps, j'ai trouvé des pâtes sans gluten.
Eh ben, on va vous faire découvrir, juste après le reportage, on va vous faire découvrir une pizza sans gluten spécialement pour vous. Mais avant, on vous emmène du côté du midi. Nous allons exactement à Toulon, sur la terrasse de la Fabrica, c'est sur le port. Et on va rendre visite à Marco Cassola, qui fait la pizza napolitaine dans les règles de l'art. Mais attention, quand je parle de la pizza napolitaine, je ne parle pas de la garniture anchois Capre. Hein, ça, c'est nous en France qui l'appelons comme ça, la vraie pizza napolitaine. Elle a une pâte avec des bords bien rebondis et bien boursouflés. C'est ça la napolitaine.
Celle qui se retourne bien comme ça. Oui, d'accord. Elle n'est pas toute plate.
Elle n'est pas toute plate. Et il va nous la faire justement là sur la Fabrica sur le port de Toulon. Frédéric Michel est allé lui rendre visite. Il s'appelle Marco Cassola et c'est un des rois de la pizza napolitaine. Écoutez bien, en route pour une margarita.
La vraie pizza napolitaine, c'est une pâte qui mature 24 heures, 65% d'hydratation. Nous, on peut dépasser ces limites-là. On fait une maturation de pâte à 96 heures. On fait un mélange moyen de 3 types de farine. On travaille avec des farines 100% biologiques italiennes. Tout ça pour rendre la pâte facilement digérée, parce que parfois, 10 minutes de plaisir pour manger une pizza, on paye les conséquences toute la nuit parce qu'on n'arrive pas à la digérer. Il y a un certain savoir-faire sur l'étalage de la pâte, ça s'appelle la macam. Donc on va sur une marguerite, on fait un grand classique. C'était fait pour la reine Marguerite, Marguerite de France, c'est aussi comme ça la pizza. Donc tomate San Marzano ou tomate Roma. Mozzarella, c'est mozzarella fleur de lait, c'est mozzarella de lait de vache. Un peu de parmigiano, du basilic frais, pas congelé, pas sec, et d'huile extra vierge d'olive. Une fois qu'on est prêt, on la tire sur la pelle, c'est très difficile. C'est l'art de faire la vraie pizza napolitaine. Et là, doucement, on va la mettre dans le four avec lo stacco. Un coup de main. Il y a une technique particulière, sinon la pizza reste accrochée sur la pelle.
On est à côté du four.
Ouais, là, c'est chaud. Hein. C'était très chaud. Le four travaille autour de 500 degrés. Il y a une cuisson 1 minute à 470 degrés. Là, on regarde bien. On commence à cuire. On va la tourner un peu. Encore un peu. Regardez, on prend un peu la couleur. Ed elle est prête. Une vraie margherita. Comme l'Académie veut.
Et ben voilà, une vraie margarita académique. Merci beaucoup, Marco Cassola, à Toulon. Alors, on ne l'a pas fait venir de Toulon, évidemment. Elle n'aurait pas supporté le transport, la pauvre pizza napolitaine. On vous a fait venir, pour vous, Chantal Lobby, qui est allergique au gluten, une pizza, toute simple comme ça, mais sans gluten. C'est Little Nona, à Paris, dans le 17e, qui fait ça. C'est une pâte sans gluten avec de la fécule de maïs, des pommes de terre et de l'amidon de tapioca. Alors moi, c'est une découverte. Elle est très belle. À l'œil, on ne voit pas la différence. Olivier Pouls a pris une bouchée, Charlotte Lengrand aussi. Chantal Lobby va ingurgiter.
Et alors, je me méfie souvent des produits sans gluten. J'avoue que les pâtes sans gluten, moi, je ne trouve pas ça très bon. Mais là, pour le coup, franchement, c'est très bon.
Alors, il n'y a pas le croustillant quand même.
Il y a moins le croustillant.
Il y a moins le croustillant.
J'imagine. Mais là, elle est un peu froide, peut-être, c'est ça.
Elle est un peu attendue,
mais elle est bonne.
Dans l'ascenseur.
Elle est bonne.
Très bonne. Une différence.
Franchement,
énorme,
elle est bonne.
Elle est bien. Hein,
non, non, elle est très bien. Elle est goûteuse
gluten
et tout.
Et sans gluten, comme on dit, c'est du no-glu, comme vous aviez fait un sketch déjà avec Eric et Quentin.
Oui.
On ne ballonne pas avec le sans gluten.
On ne pète pas.
Ou on pète, mais ça ne sent pas.
Ça sent pas.
Ne bougez pas, on revient tout de suite pour répondre aux questions que vous avez posées sur le répondeur des bons vivants au 3921. Ne l'oubliez pas, le répondeur, il est là toute la semaine, le 3921, pour accueillir vos questions. A tout de suite sur Europe 1 et bon samedi midi. Bonne app, Chantal.
Elle est bonne.
Ah ouais, elle est bonne.
Elle aime bien.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
La cuisine, c'est bien plus que des recettes, disait le grand chef Alain Chapelle. Eh bien, c'est aussi notre credo à la table des bons vivants. Chantal Lobby est notre invitée. Alors, après une pizza sans gluten, on aimerait bien lui faire découvrir cette brioche de Perla Servan-Schreiber, mais ça, vous n'avez pas le droit parce qu'il y a du gluten.
Je vais vous regarder la manger et je vais regarder vos yeux.
Elle est très, très bonne.
Hein, non, mais il se passe rien. Ah ouais. Il n'a pas les yeux qui révulsent.
Non, elle est très, très bonne. Non,
mais il a les yeux amoureux, là, dès qu'il mange.
Quelle est la première recette qu'on vous ait transmise, Chantal Lobby?
Et une recette que j'ai prise à ma mère, ça s'appelait du pâté de foie de volaille.
Ah, ça c'est bon.
Et moi,
ça,
quand elle voulait me faire plaisir, quand je l'appelais, des fois j'étais bien fatiguée, elle me disait, je te fais ton pâté de foie de volaille. Et je fonçais, et dans le train ou n'importe quoi, ou la voiture, quand j'allais la voir, de partir de Paris et tout, je pensais à ce pâté de foie de volaille, je sentais l'odeur. Elle mettait une sauce tomate avec à l'intérieur des petites quenelles, des petits champignons, des trucs comme ça qui recouvraient le pâté de foie de volaille. Il était très travaillé, était magnifique.
C'est bien ça.
L'odeur
bonne idée.
Que je m'en souviens encore.
Avec des foies blonds.
Oui, c'est bon, ça, des foies blonds. C'est Alain Chapelle justement qui faisait ça, ce gâteau de foie blonds de volaille.
Escorté là pour le coup d'une bisque d'écrevisses.
Oh, c'est bien.
Ah ouais, ça
ne devait
pas être mal là aussi.
C'est pas léger, mais on est bien.
Un peu moins, là.
On va répondre aux questions que vous posez au 3921. Vous le savez aussi sur la page Facebook du groupe Les Bons Vivants. Vous pouvez poser des questions et on prend contact avec vous. Donc n'hésitez pas. Et merci au passage d'être nombreux à suivre cette page Facebook du groupe Les Bons Vivants. Une première question au 3921.
Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Je suis Nathalie, j'habite dans les Yvelines. Je suis fan de canards, particulièrement du magret. Et je voulais savoir si vous auriez une recette à me proposer qui change du magret au miel ou du magret au barbecue pour épater les copains. Merci beaucoup.
Pour changer, on peut s'amuser à le transformer un petit peu comme le canard à l'orange. C'est-à-dire que vous prenez...
On peut le faire cuire beaucoup plus.
Alors, il y en a qui l'aiment à point, le magret, bien sûr, mais sinon, c'est assez court, hein, la cuisson. Mais pour l'accompagner, des courges et des oranges. Des petits quartiers de courges, on rentre dans la saison des courges. Des petits quartiers de courges et des segments d'oranges, des oranges en quartier sans la peau. Un petit peu de beurre, d'huile d'olive et quelques épices. Vous mettez cette petite garniture au four. Votre magret, vous le faites cuire à la poêle, côté graisse d'abord et ensuite côté chair. Et vous servez avec cette garniture. Ça fait un canard à l'orange revisité express.
Oui, et moi je suis sur l'autre registre, c'est-à-dire que moi je le mange carrément cru, je le fais en tartare. Et c'est viande à laquelle on ne pense pas pour faire des tartares. C'est une viande qui est très maigre. Alors évidemment, on enlève toute partie très grasse, mais le cœur de la viande est une viande très maigre et c'est délicieux en tartare.
Nouveauté, Chantal Lobby, dans cette émission, c'est que les invités posent des questions sur des petits trucs, des recettes qu'ils aimeraient maîtriser en cuisine. Est-ce que vous avez une question à nous poser sur un tour de main On m'a parlé de salade.
Oui, faire une bonne sauce de salade,
c'est
par
ça,
exemple.
Hein.
Et comment, moi, ça m'énerve chaque fois que je dois éplucher un oignon, ça me gonfle. C'est-à-dire, je me dis, comment je vais faire? Bon, bien sûr, je sais que c'est tout bête, mais arriver à le couper bien en petits...
Ah, le ciseler, vous voulez dire? Ah oui, alors ça, c'est des techniques, effectivement, de taillage. On peut l'émincer, dans ce cas-là, on le coupe en deux, et puis on y va, effectivement, à la surface avec un couteau bien aiguisé. Et émincer, ça veut dire qu'il faut prévoir un quadrillage, en le quadrillant, en le découpant.
Voilà.
Quoi, vous voyez. Donc ça,
c'est ça, plus compliqué.
Il y a des tutos sur Internet.
Je vais regarder
un petit tuto pour
émincer. Mais une bonne sauce de salade, par exemple.
Ah, une bonne sauce. Comment vous la faites, votre sauce
alors,
de salade?
Alors moi, je mets un peu d'huile d'olive.
Oui.
De temps en temps, je rajoute un peu d'huile de noix.
Oui.
Je mets du vinaigre de cidre.
Bah c'est bien,
et
ça.
Un peu de vinaigre balsamique.
Et ben alors qu'est-ce qui va pas?
Ben non, je me suis demandé si c'était bien.
Ah non, les
non jamais.
C'est une
je mets pas de moutarde. Ça me dénature un peu le goût de la sauce.
Vous voulez retrouver le goût des huiles?
Ouais, je vais retrouver le goût des huiles et du vinaigre.
C'est une dose de vinaigre pour 3 doses d'huile en général, hein, quand on fait une vinaigrette. Alors on peut justement amener un petit côté émulsifiant avec la moutarde, mais si vous voulez qu'elle soit tranchée, c'est-à-dire que les éléments ne s'associent pas, il faut mélanger les huiles comme vous le faites. Là, c'est bien aussi de mélanger des huiles première pression à froid, une huile de noix, une huile de noisette,
un jus de
tournesol, jus de citron.
Un petit jus de citron aussi, de temps en temps, j'en rajoute aussi.
Eh bien, on la prend, votre sauce de salade avec
c'est
vos
huiles. C'est vrai, elle était bien, ma sauce.
Ah, elle est bien.
Et puis plein d'herbes. Moi,
j'aime bien les herbes.
J'aime l'estragon, j'aime la ciboulette.
Tu croques moi, le basilic, j'en mets dans plein de plats. Et la ciboulette aussi.
Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi avec Chantal Lobby. Vous allez être confrontée au questionnaire des bons vivants dans un instant, chère Chantal. C'est la dernière partie. On va vous découvrir de l'autre côté de la fourchette.
Du côté qui pique pas, alors.
Oui, absolument. Arrondi. À tout de suite sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Merci d'être avec nous à la table des bons vivants. Elle est au complet, cette table, avec Chantal Lobby qui est notre invitée. Charlotte Langrand, nouvelle venue à la table des bons vivants, que vous pouvez retrouver également dans le journal du dimanche, et bien chaque dimanche, comme son nom l'indique. Et Olivier Pouls qui est là et qui nous a bien servi à boire, Olivier Pouls. Qu'est-ce qu'on boit d'ailleurs avec Chantal?
Eh bien, nous dégustons un Gewürztraminer, grand vin d'Alsace, un cépage typique de l'Alsace, c'est un grand cru. Et ça vient d'un domaine que j'aime beaucoup, qui est un domaine au féminin. Il y avait 3 femmes à l'origine, malheureusement, il n'y en a plus qu'une aujourd'hui. C'est Catherine Faller, qui produit ce très beau vin, millésime 2012. C'est parfait à boire.
Félicitations, madame.
Ça vous plaît?
Il est délicieux. Délicieux, je ne suis pas très blanc, moi, je préfère le rouge. Mais celui-ci, il est magnifique.
Ça, avec un foie gras, justement, ou un dessert, ça marche très bien. Hein. C'est des vins un petit peu doux.
Oui, parce
quand même.
Que c'est sucré, mais pas trop.
Pas trop non plus.
Il y a très bel équilibre. Et justement, l'art de la dégustation et comment le déguster, on va en parler dans un instant. Hein.
Quels sont vos petits plaisirs, Chantal Lobby?
Chocolat.
Ouais.
Chocolat noir.
Ouais.
71% de cacao. Et puis, des petites cerisettes aussi, que j'aime bien. Vous savez, les petits chocolats avec de l'alcool dedans.
Comme les Mon Chéri.
Voilà, comme les Mon Chéri, mais de chez
Jeff de Bruges.
Jeff de Bruges.
Ben dites-le.
J'allais dire JFD, mais c'est pas ça, JDF, JDB.
Est-ce que le vin tient une place importante dans votre vie, Chantal Lobby?
J'aime bien boire un bon petit coup de vin de temps en temps. Franchement, j'aime la Suze.
J'aime
vieil alcool.
Oui, moi j'adore ça aussi, l'amertume de la
Suze. L'amertume de la Suze.
Ah oui, c'est super. C'est de la gentiane. Hein.
Voilà, la gentiane, j'adore. Alors là, je peux y aller bien. Mais j'aime ça, j'aime le Genepi.
Oui, c'est la montagne. Vous
tout
aimez
ce
la
qui
montagne.
Est montagne,
oui,
voilà.
Alors, on va parler dégustation du vin et on va surtout parler dégustation au restaurant, parce que c'est vrai que parfois les sommeliers ont un vocabulaire un petit peu intimidant. Quand on ne s'y connaît pas forcément, eh bien, on a peur de passer pour un bêta.
Ouais, il a du slip quand même. Hein, oh là là, il a du slip.
Ça,
j'oserais pas le dire. Hein.
Mais j'adorerais qu'on entende ça dans les restaurants. Moi, vous
mais ça se dit. Moi, je...
ah, bah, vous pouvez essayer.
Ou alors c'est moi qui l'ai inventé. Non,
ah, non. Ce qui
serait drôle, en fait, c'est effectivement, vous allez au restaurant, on vous fait goûter le vin, puis il a du slip. Hein. Ce sera assez marrant de voir la réaction.
Il me semble l'avoir entendu, mais peut-être pas d'un sommelier. Si, c'est ça. D'un des nuls.
Ça doit être les nuls, ça, à mon avis. Vous allez nous donner...
Je mélange tout.
Mais oui, mais c'est génial, j'adore. Parce que moi, je n'ai jamais entendu dans une table... Oh, bon. Dans une
pardon
table,
je croyais que c'était une vraie expression.
Mais j'adore. Mais si. On est clients, Chantal. Justement, revenons au restaurant, Olivier Pouls. Comment faire pour décomplexer un petit peu ce cérémonial de la dégustation?
Il faut dire, il y a du slip. En fait, il faut casser les codes, mais vous avez raison. Parce que... souvent, quand on se retrouve au restaurant, parfois avec le sommelier, voilà ce qu'on entend.
Belle robe vermeille, un peu violette, bel éclat. C'est un Bordeaux, un grand Bordeaux. Un peu de pourriture noble en suspension. Les impuretés descendent lentement. Ce vin a 23 ans. C'est un 53, une très grande année.
L'aile ou la cuisse, Louis
XVI. Oui, c'est magnifique.
C'est magnifique, c'est une façon de parler du vin qui est très poétique, certes, mais bon, qui ne nous touche pas tous, il faut bien le reconnaître. Donc évidemment, il faut casser les codes.
Par quoi on commence pour casser les codes?
Je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, je suis souvent allé en Chine pour déguster du vin avec notamment un dégustateur chinois avec qui je m'entends très bien. Et on parlait du vin, évidemment, on échangeait nos impressions. Et puis moi, je lui faisais part de goûts que je retrouvais dans le vin. On disait, tiens, ça sent la groseille. Puis il me regarde. Regardez, je comprends pas, je sais pas, j'ai jamais mangé de groseille de ma vie. Donc en fait, on s'attribue des références qui sont notre histoire et qui sont notre histoire personnelle. Et donc, ça ne sert à rien de vouloir essayer de reproduire des choses que vous entendez justement de la part de sommelier. Il faut parler avec son cœur. Ressenti, son cœur, ses intuitions.
Oui, ça veut dire qu'on oublie les sommeliers qui ont un vocabulaire incompréhensible, branché, et qui font de plus en plus aujourd'hui du name dropping, c'est-à-dire que ah, c'est le vin d'un tel, vous le savez, vous connaissez pas, moi on me l'a fait, hein. Quand vous allez dans le Jura, c'est le premier rond-point après Pontarlier, vous prenez la deuxième.
Oui, il faut connaître le prénom du chien.
Oui, c'est ça, mais voilà. On connaît pas tout le monde.
Mais non, on connaît pas tout le monde, et puis finalement ça n'a aucun intérêt. Qu'est-ce qui compte? Et là, je vous ai servi donc ce vin d'Alsace, c'est de nous faire partager votre ressenti. Ça vous plaît, ça ne vous plaît pas, qu'est-ce que vous ressentez? Alors, on peut peut-être faire un petit tour de table rapide. Chantal, vous m'avez dit, ce Gewürztraminer vous plaît, qu'est-ce que vous ressentez?
Ça m'agresse, le blanc, quand je le bois. Et celui-ci m'adoucit tout de suite. C'est-à-dire, il y a une douceur dans ce vin et plein de petits goûts derrière. Je ne sais pas comment le définir. Il n'est pas dur, il n'est pas rude.
Voilà, voilà. Ce que vous dites là, c'est votre ressenti. Et c'est mon ressenti. Je ne peux pas le contester, bien sûr. Et donc, c'est ça, en fait, la dégustation du vin. C'est se l'approprier, c'est casser les codes et oublier qu'on n'est pas là dans un concours, que ce que vous raconte le sommelier, finalement, il est là pour vous impressionner, pour vous regarder de haut. Faites jouer vos sentiments.
Merci, Olivier. Chantal Lobby, c'est l'heure de vous passer sur le grill du questionnaire des bons vivants. Et attention, ça chauffe, Chantal.
Ouf.
Eh oui. Le premier plat que vous avez cuisiné, Chantal Lebeau?
Alors, si je me souviens bien, c'est une piperade.
Ah.
Avec un copain que j'avais à l'époque, j'étais jeune, et il m'avait fait une piperade.
Avec des poivrons?
Avec des poivrons, plein de légumes mélangés, et on avait cassé un œuf dessus, on avait mélangé tout ça. C'est la première fois que je mangeais une piperade. Et je me suis régalée.
Votre plus beau repas dans le sens inoubliable, Chantal?
Une belle rencontre amoureuse, on se trouve à table, on a complètement oublié ce qu'on a mangé.
Dominique Farrugia m'a parlé aussi d'un repas avec Bruno Carrette autour d'un poulet.
Le poulet me rappelle surtout un jeu qu'avait Bruno avec ma fille, où il lui faisait peur, il venait vers elle, il la fixait dans les yeux, il lui faisait « le poulet ». Elle était petite, elle avait 2 ans, elle criait « non ». Je ne sais pas pourquoi.
Pas le poulet.
Ah, le poulet, si on avait dû oublier dans le four, je ne sais plus ce qui s'était passé. On était en train d'écrire Objectif nul, je pense.
Votre pire repas, Chantal Lobby?
C'est probablement les repas où on finit par une engueulade. C'est ça, un pire
ça
repas.
Arrive, ouais.
Maintenant, me dire j'ai mangé quelque chose d'affreux, si c'est affreux, je le laisse dans mon assiette. Je ne le mange pas, donc ça ne peut pas être un pire repas.
Le plat que vous n'avez jamais mangé et que vous aimeriez essayer?
Du magret de canard, comme vous avez parlé tout à l'heure.
Ah bah c'est bien, on a avec, donné envie au moins.
Ouais. Avec ces petits légumes autour, c'est...
Oui, la courge et l'orange.
L'orange, ça me fait envie.
Oui, avec un petit peu de miel aussi, c'est
voilà.
Bon. Quel plat emmèneriez-vous sur une île déserte, Chantal?
Si je pouvais emmener le petit foie ma maman, ce serait avec plaisir sur une île déserte. Mais il me faudrait un petit réchauffe machin.
Qui sont les invités de votre dîner idéal?
Se refaire un repas des nuls, par exemple, tous ensemble. Puis y ajouter un gars avec qui, quelqu'un que j'aimais beaucoup et qui j'ai fait une pièce de théâtre, Jean-Pierre Mariel, parce que je savais que c'était un bon vivant, qu'il aimait bien manger, bien boire, boire des bons vins et tout, et siffler les roses de Picardie après un repas. Je me souviens de ces instants-là et... J'aimerais les avoir tous autour d'une table.
Exactement.
Admirable cholestérol qu'on va se payer.
Voilà, ben voilà, c'est lui.
Ouais.
Quelle est votre adresse secrète, Chantal?
Alors moi, j'aime bien aller à l'atelier de Maître Albert. L'atelier de Maître Albert, c'est un restaurant qui est pas très loin de chez moi.
De Guy Savoie?
De Guy Savoie, exactement. Et c'est, voilà. J'aime bien parce que la cuisine est toute ouverte. Il y a une belle cheminée. Et puis, on voit les cuisiniers en train de s'affairer avec des beaux poulets. Ils font des légumes dans des petits poêlons, des choses comme ça. Il y a plein de belles choses. Et je mange ma salade de foie de volaille là-bas.
Ah, on y retourne à la volaille.
Voilà, on y retourne à la volaille. Salade de foie de volaille, c'est les seuls moments où je mange du foie. Parce qu'on en a besoin, l'organisme a besoin de fer. Donc de temps en temps, je vais là-bas parce que la salade de foie de volaille est magnifique, entre autres.
Et le mot de la fin, F-A-I-M, Chantal?
Miam miam.
Ah ben voilà, 2 mots, bravo. On vous applaudit. Merci Chantal d'être venue.
Merci de votre accueil à tous.
Et on vous retrouve au cinéma, évidemment, en DVD avec Qu'est-ce qu'on a fait au
c'est
bon
trop
Dieu
gentil.
Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, qui est un succès phénoménal. Et on vous reverra au cinéma bientôt, au mois de janvier,
Je
crois.
Oui.
Merci Chantal d'être venue.
Merci à vous, infiniment.
Merci beaucoup. Merci à Lucie Lescourou, Julien Amat de m'avoir aidé à préparer cette émission. Jean-Luc Arblade à la réalisation, Agnès Vaudin à la programmation. Les références et les recettes vous attendent sur europe1.fr. C'est le week-end, nous sommes samedi. Faites le marché, la cuisine et le reste aussi. Bon week-end, Justine, et merci pour votre fidélité, les amis. Bon week-end.
Merci.